It's Morning Edition from NPR News.
Let's see the sun people how see.
France Inter, le 18/20.
Et ce soir, c'est au Chili que nous allons, qui doit avoir un peu la gueule de bois après avoir majoritairement fait la fête après l'élection de Gabriel Boric, tout jeune nouveau président. Le Chili qui entre donc dans une nouvelle ère, mais le chemin est tortueux, c'est ce qu'on verra ensemble dans un tout petit instant. Le bruit du monde est en Corée du Sud, où on se bat pour rendre le tatouage légal. Mais comment ça? Et bien, théoriquement, figurez-vous que seuls les médecins ont le droit de tatouer, on vous raconte ça ensemble. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Adrien Toffolé a trouvé des manifestations au Soudan. Une doyenne chinoise que le gouvernement va regretter et des rats qui vivent leur vie à New York. 18h50, le monde de Joe Biden et Loïc Loury. Joe Biden qui a un énorme caillou dans sa chaussure, un caillou qui pourtant est démocrate. En tout cas, il n'y aura pas de plan de relance sans le sénateur Joe Manchin qui dit toujours non. 18h55, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four avec Boris Johnson qui est dans la panade. Mais ne l'enterrons pas trop vite, c'est ce que nous dira Jean-Marc. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Franck Godichaud.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en histoire et études latino-américaines contemporaines à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste du Chili. Franck Godichaud, on croyait le Chili très divisé. De fait, il l'est, bien sûr, on y viendra. Mais on avait parié sur un score bien plus serré entre Gabriel Boric à gauche et José Antonio Kast à droite. En réalité, 56%, c'est sans appel. C'est la participation qui fait la clé de ce deuxième tour, selon vous?
Oui, tout à fait. Il y a eu vraiment une grosse différence entre le premier et le deuxième tour. Il y a eu un sursaut de participation, notamment dans les centres urbains, chez la jeunesse. Et donc, c'est ça qui a fait la différence pour la victoire vraiment très, très nette. Presque 10 points de différence de la coalition de gauche.
Alors, les jeunes, et on y viendra d'ailleurs, parce que les jeunes, les classes populaires aussi disent ce que va être cette présidence. Mais le centre qui s'est regroupé un peu vers la gauche, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans cet entre-deux où tout le monde était très très serré? Qu'est-ce qu'il a promis, en fait, le très à gauche, Gabriel Boric?
Il faut bien voir que Gabriel Boric et sa coalition ont vraiment modéré leur discours entre les deux tours. Ils ont chassé au centre du côté de ce qui était l'ancienne concertation, une alliance entre le Parti Socialiste et la Démocratie Chrétienne. Et il a mis un peu de l'eau dans son vin aussi sur la question de la fiscalité, des réformes sociales, en décevant d'ailleurs une partie de sa base électorale. En face, d'ailleurs, l'extrême droite, elle aussi, a essayé de modérer son discours.
La gauche traditionnelle, celle de Michel Bachelet notamment, a rejoint le candidat Boric à gauche. Est-ce que elle l'a fait entrer dans les pieds? Parce qu'il y avait ni gauche ni droite traditionnelle au fond. Est-ce qu'elle l'a fait entrer dans les pieds ou est-ce qu'elle le fait volontiers, cette gauche-là?
Disons que oui, enfin Michel Bachelet s'est prononcé assez clairement en soutien à Gabriel Boric. C'est vrai qu'on voit au deuxième tour qu'il n'y a aucun des grands partis traditionnels qui a gouverné le Chili depuis 30 années. Et donc c'est cet effondrement des partis traditionnels qui fait qu'apparaissent ces deux figures et l'ont face à l'extrême droite, Michel Bachelet et d'autres figures comme Ricardo Lagos ont donné leur soutien à Boric.
Mais vous direz qu'ils l'ont fait en se disant oui, c'est là l'avenir. Il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire nous, qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas su. Donc on lui donne notre voix ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de contraint et forcé pour faire barrage au fond à Kast et uniquement pour faire barrage?
Il y a de ça, faire barrage, en tout cas chez les électeurs, chez les dirigeants comme Michel Bachelet, il y a une tentative aussi de ramener Boric plutôt dans le giron de ce qu'était le Parti Socialiste chilien, et donc finalement d'essayer de l'ancrer dans cette perspective de la démocratie des consensus à la chilienne, dans une perspective plus libérale au plan économique. Et donc là, il y a des enjeux, évidemment, de jeu de parti, surtout que le Parlement va être assez difficile à gouverner pour le nouveau candidat de gauche.
Un Parlement qui effectivement est très très divisé, très très disparate. Le mot historique, on l'utilise un peu à tort ou à travers. Franck Gaudicio, pour le Chili là, est-ce que vous diriez que oui, c'est un moment historique ou pas?
Oui, sans aucun doute. Il y a un nouveau cycle historique qui s'est ouvert au Chili depuis la grande révolte d'octobre 2019, la grande révolte sociale. Et là, ça se traduit en partie dans les urnes. Il faut rappeler que c'est un candidat qui est issu du mouvement étudiant, qui a 10 ans était quasiment inconnu, qui n'a que 35 ans, c'est le plus jeune président de l'histoire de l'Amérique latine, et qui vient d'une nouvelle gauche, pas issue des partis traditionnels. Donc là, il y a vraiment une option politique qui a été prise dans le pays, qui accompagne ce nouveau cycle, mais un cycle en tension, avec des incertitudes, avec aussi des conflits sociaux et des demandes sociales très très fortes.
Est-ce que vous parliez des jeunes tout à l'heure, et notamment des urbains, est-ce qu'on est vraiment dans un Chili de confrontation de générations? Parce que les jeunes qui votent pour Boric aujourd'hui, ce sont des jeunes qui n'ont absolument pas connu la dictature, qui n'ont pas du tout connu ces années-là. Les parents éventuellement ont pu les raconter. En revanche, ce sont des jeunes qui ont vécu toujours dans ce qu'il est toujours resté de grandes politiques néolibérales façon Chicago Boys, de la grande époque de Pinochet. Donc, au fond, à la fin, est-ce qu'il y a un fossé générationnel dans cette élection ou pas?
Oui, assez clairement, on voit vraiment émerger déjà une nouvelle génération de dirigeants politiques, et parmi les électeurs ou les personnes mobilisées, c'est cette jeunesse qui effectivement n'a pas connu la dictature, qui critique les effets des inégalités, des violences sociales du modèle néolibéral hérité de la dictature, et en même temps qui se mobilise dans une perspective de transformation sociale dans le cadre de cette démocratie héritée de la transition de 1990, mais avec des nouveaux outils, des nouvelles perspectives. Il y a un monde qui est en train petit à petit de disparaître quand même au Chili, et un nouveau cycle qui s'ouvre.
Est-ce que vous diriez que José Antonio Kast et ceux qui ont voté pour lui, au fond, étaient les derniers représentants de ce monde-là? Je vous pose la question parce que vous le disiez tout à l'heure, la droite, la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle n'étaient pas présents à ce deuxième tour, mais sont quand même au Parlement. Donc est-ce que ça veut dire que ce que représente Kast, au fond, s'arrête en même temps que lui, puisqu'il a peu d'élus, ou est-ce que quand même il faut se souvenir qu'il y a aussi ce Chili-là, qui est un Chili quasi nostalgique de la période Pinochet?
Oui, oui, tout à fait. Et Monsieur Kast entend bien peser dans les débats du prochain mandat. Il a réussi à faire rentrer une quinzaine de députés au Parlement. Il n'en avait aucun jusque-là. Et donc lui, sa perspective en fait et son admiration, c'est Bolsonaro, c'est le Brésil. Il pense qu'il y a un vrai moment politique en Amérique latine pour défendre ses positions ultra-conservatrices et continuer à labourer en fait cette politique-là dans les secteurs populaires, une partie des élites. Donc non, lui, il pense vraiment incarner le futur du Chili, et il a certains arguments, puisqu'il est quand même été en tête du premier tour, et avec 45% des voix au deuxième tour.
Il a reconnu sa défaite très rapidement. Est-ce que c'est au fond presque un étonnement ou pas? Est-ce que peut-être lui-même d'ailleurs a été étonné de ce résultat-là?
Je pense que dans l'équipe Kast, il y a vraiment eu quand même un étonnement de l'ampleur de la victoire de Boric. Et l'option qui a été prise par son équipe, ça a été de jouer la carte de la responsabilité, d'apparaître comme quelqu'un prêt au dialogue, en préparant, comme il l'a dit lui-même dans son premier discours, son travail d'opposition parlementaire. Et donc là, il y a un jeu en même temps au sein des droites pour savoir qui va avoir le dessus entre l'extrême droite et la droite libérale, qui, comme vous l'avez dit, est toujours bien présente au Parlement avec des grands partis ancrés sur les territoires.
Mais est-ce que la droite libérale vote sans problème avec la droite de Kast, ou est-ce que justement ça va se jouer, y compris d'ailleurs peut-être à chaque vote, à chaque tentative de projet de loi?
Là, on a vu entre les deux tours que très rapidement, la droite libérale a donné son soutien à Kast, sans hésitation. Mais au niveau du Parlement, ça risque d'être plus tendu, parce que les équilibres sont beaucoup plus en faveur de la droite libérale. Donc, elle va vouloir jouer son hégémonie et continuer à essayer de contrôler l'opposition. Donc là, il va y avoir des ajustements qui vont être faits. Et ça dépendra aussi des capacités de Gabriel Boric de créer en face des majorités pour gouverner et mettre en place les réformes sociales qu'il a promises.
Alors, qui sont de très très grosses réformes sociales. On parle d'un régime public de retraite au lieu du régime par capitalisation qui est celui du Chili jusque-là. On parle de bouleverser le système de santé pour en faire un système qui ressemblerait plutôt au nôtre. On parle d'augmentation des impôts. Comment ça s'accommode, ça, avec la droite centriste qui s'est ralliée, vous en parliez, avec un certain nombre de promesses qui ont été faites. Comment il n'est pas lâché par sa gauche-gauche, si je puis dire, qui a voté, elle, pour ce programme-là?
Il y a une tension véritable, évidemment. Le programme, finalement, de Boric, il est quand même assez graduel. Hein. Il l'a même dit lui-même, ce serait une politique des petits pas, avec, par exemple, une nouvelle fiscalité, mais qui représente 5 à 6 points du PIB sur un mandat. Donc, c'est pas non plus un véritable bouleversement économique et social. Mais même pour avancer dans ces perspectives de plus de santé publique, de la question des retraites qui sont entièrement privatisées, les ramener dans une entité publique, il va falloir quand même avoir des majorités et du financement. Et là, il y a une tension entre, disons, une option Boric très social-démocrate et un autre secteur qui voudrait aller beaucoup plus loin pour vraiment remettre en cause le néolibéralisme à la racine au Chili.
Est-ce que vous diriez, vous, Franck Godichaud, l'observateur, qu'il a les épaules, ce jeune homme de 35 ans, qui est issu du mouvement étudiant, qui, vous le disiez, était assez peu connu du Chili il y a une toute petite dizaine d'années, qui était parlementaire hein, tout de même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a ces épaules-là ?
En tout cas, il a montré une vraie capacité hein, d'intelligence politique et tactique au plan électoral, mais plus largement depuis une dizaine d'années dans l'espace parlementaire. Et puis, autour de lui, il y a de nombreux cadres, d'ailleurs d'anciens cadres hein, de Michel Bachelet qui commencent à pousser pour essayer de rentrer au gouvernement. Donc oui, du point de vue de la perspective de la présidence, je pense, mais reste cette question sur quelle orientation finalement pourra-t-il gouverner et quelle place surtout pour la nouvelle constitution, puisqu'il y a un processus constituant qui est en cours en parallèle.
Et là aussi, est-ce qu'il met des têtes nouvelles justement dans son gouvernement ? Vous disiez qu'il y avait un certain nombre de gauche Bachelet, on va l'appeler comme ça, qui était en train d'essayer de faire un peu d'entrisme. Est-ce qu'il prend le pari de ne mettre que des têtes nouvelles ? On rentre vraiment dans un nouvel ère ? On est dans l'ère de la constituante qui est en train de se mettre en place ? On est dans un nouveau Chili ? Ou est-ce qu'il a besoin d'aller chercher ses anciennes têtes pour pouvoir gouverner plus sereinement ?
En tout cas, la première question et le premier problème de Gabriel Boric, ça sera celle-là. Comment former son gouvernement en essayant de mettre en place des alliances entre les différentes sensibilités de l'arc politique qu'il représente. Et ça va pas être une mince affaire avec, en plus, cette pression des cadres historiques de l'État chilien, de la social-démocratie, autour de Michel Bachelet, qui, eux, aussi veulent une place au gouvernement.
Est-ce que c'est un peuple patient, les Chiliens, Franck Godichaud, on va le laisser travailler, ce Boric ? Est-ce qu'au contraire, ce sera difficile ? Est-ce qu'il aura ses 100 jours, comme on le dit, nous, en politique ?
Eh bien, ce n'est pas du tout sûr. Hein. Il faut rappeler qu'il y a vraiment des demandes sociales très très fortes qui sont là, qui sont présentes, qui ont abouti à un grand bouleversement social en 2019. Il y a une crise économique qui s'est installée. La question de la pandémie aussi est au cœur des débats publics. Donc, Boric aura peu de temps, en fait. Il va devoir prendre des mesures très rapidement s'il veut répondre, en fait, à cette demande qui est présente de manière transversale, en fait, dans la société chilienne.
On va parler rapidement des voisins, Franck Godichaud, mais avant ça, puisque vous l'avez noté, et puis on est un petit peu omnibulé par ça, nous, en France, en ce moment, et dans le reste du monde, ils en sont où, de la pandémie, les Chiliens ? Et du vaccin.
Mais là, il y a un retour, hein. Il y a un retour assez fort. Le bilan de la gestion de Monsieur Sébastien Piñera est jugé très négativement sur cet aspect. Et d'ailleurs, Gabriel Boric a joué là-dessus puisqu'il a mis à la tête de sa campagne l'ancienne présidente du Collège des médecins, qui elle avait fait une opposition sanitaire, on pourrait dire, à Piñera. Donc c'est un thème central et qui a des impacts économiques très très importants.
Et vacciné, parce que certains des voisins, je pense au Pérou notamment, faisait partie un moment, si je ne me trompe pas des pays les mieux vaccinés dans cette partie du monde. Vaccinés comment, les Chiliens ?
Oui, le Chili aussi, okay. Notamment avec le Sinovac, le vaccin chinois, et une vaccination assez large, y compris pour les enfants, qui est une couverture très large.
Alors, on l'a à peine évoqué, les voisins, si je suis Lula au Brésil aujourd'hui, c'est d'ailleurs peu ou prou ce qu'il a dit, je dis, ben, le suivant, c'est moi. Est-ce qu'il peut y avoir une lame de fond après cette élection de Gabriel Boric, comme au fond, il y avait eu aussi une lame de fond à l'extrême droite précédemment ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élection de Boric, cette option de gauche progressiste, elle s'aligne hein, sur le plan géopolitique avec la Bolivie, avec le Pérou, avec l'Argentine, et peut-être demain, en octobre 2022, avec une élection potentielle de Lula da Silva au Brésil. Donc ça vient quand même remodeler la géopolitique latino-américaine. Certains parlent d'une deuxième vague progressiste en référence à celle des années 2000 autour de Chavez. À mon avis, c'est un peu rapide, mais il y a vraiment un réalignement politique assez marqué. Et en face, une montée aussi en force des extrêmes droites. C'est un moment assez paradoxal sur ce plan-là.
Alors effectivement, parce que Cast, vous le disiez, son modèle, c'était en face Bolsonaro. Peut-être que Bolsonaro a bien vu ce qui s'était passé en ce moment au Chili. Est-ce que la comparaison s'arrête là, c'est-à-dire extrême droite, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelques similitudes vraiment entre ce qui s'est passé au Chili ces derniers mois pour aboutir là où nous sommes et ce qui s'est passé au Brésil ces derniers mois pour aboutir, vous le disiez, en octobre 2022?
En tout cas, les extrêmes droites sont connectées entre elles. La montée en force de courants évangélistes, catholiques, rigoristes viennent alimenter en fait ces options-là. Peut-être que Monsieur Cast est un peu moins rupturiste que Bolsonaro dans sa manière de communiquer, mais les idées, en tout cas, sont très très proches hein, les unes des autres, et avec un vrai travail transnational de ces courants, disons, de l'extrême droite latino-américaine.
Un continent à suivre. Franck Godichaud, merci beaucoup, merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Corée du Sud, où citoyens et politiques essaient de rendre le tatouage légal. Figurez-vous, vous comprendrez ce que ça veut dire dans un tout petit instant. Et la troupe qui reste avec nous jusqu'à 19h, c'est Sous les radars, Adrien Toufollet.
Bonsoir, solution radicale qui se développe à New York pour lutter contre les rats. Il est question notamment de biscuits très très sucrés et de vapeur d'alcool.
Eh ben justement, tiens, les États-Unis et le monde de Joe Biden, c'est vous, Loïc Lurie. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne, on évoquera ce cadeau de Noël, un coup de poignard dans le dos asséné à Joe Biden par un sénateur de son propre parti.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir. Il y a aussi des coups de couteau dans le dos, ouais.
Oui, au Royaume-Uni, Boris Johnson vient de se prendre deux nouveaux scuds dans la figure. Le Premier ministre britannique est touché, mais attention, il n'est pas coulé.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il fait un petit détour avec Cat Power, Bad Religion sur France Inter. He said, praise the Lord. Le bruit du monde ce soir est en Corée du Sud, où le tatouage est considéré comme un acte médical et donc la pratique réservée aux médecins. Mais un mouvement politique et citoyen envisage de modifier la loi pour régulariser la situation des dizaines de milliers de tatoueurs du pays qui exercent encore leur art illégalement. Donc un paradoxe, si vous vous promenez l'été, donc la saison des bras nus en Corée du Sud, ben vous verrez combien le tatouage, comme partout, est très répandu. Le reste, c'est Nicolas Roca qui raconte.
À l'ouest de la capitale, dans le quartier branché de Mapo, une maison aux briques rouges détonne au milieu des immeubles gris. Pek Song Han nous fait le tour des trois étages du studio qu'il partage avec une dizaine d'autres artistes. Plusieurs salons avec différentes tables. Sur l'une d'entre elles, au sous-sol, une jeune femme se fait tatouer. Difficile d'imaginer que cette scène en apparence très banale est passible de 2 ans d'emprisonnement.
En Corée du Sud, les clients ne réalisent pas que c'est illégal. Habituellement, ils nous contactent sur Instagram, on discute du design et parfois ils se déplacent ici et ensuite on les tatoue. Pour nous, les problèmes apparaissent généralement lorsqu'il y a un désaccord avec le client et qu'il veut porter plainte par exemple.
Celui qui se fait surnommer Peksa, soit le chiffre 104 en coréen, exerce son métier depuis 16 ans.
Officiellement, je suis sans emploi, comme beaucoup d'autres tatoueurs. Les clients nous règlent en cash habituellement et on ne peut pas le déclarer, on ne paie pas d'impôts. Mais toute la préparation au tatouage, elle est déclarée au sein d'une entreprise de design.
Autrefois, l'image du tatouage était liée au milieu mafieux et désormais on estime à près d'1 million le nombre de Sud-Coréens tatoués. Pourtant, les artistes restent une cible pour les autorités.
Personnellement, je n'ai jamais eu de problème direct avec la police à propos de mon travail, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires d'autres tatoueurs. En Corée du Sud, il y a certains moments où les policiers ciblent particulièrement les tatoueurs, donc dès qu'on a l'information, on se prévient et on fait très attention. Souvent, par exemple, ils prêteront plus attention à ceux qui tatouent les personnes plus jeunes.
Pour mettre fin au tabou dans un pays qui floute encore les tatouages à la télévision, Ryu Ho-jung, la députée du Parti de la Justice, a médiatisé la cause des tatoueurs en apparaissant dans une robe violette, le dos nu rempli de faux tatouages devant l'Assemblée nationale.
Après ma performance, 80% des Sud-Coréens dans la vingtaine se sont dit favorables à l'adoption d'une loi. Et pour le reste de la population, c'était plus de la moitié. Donc il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour convaincre les gens. Les démocrates et d'autres partis sont d'accord aussi pour la loi sur le tatouage. Nous devons tous travailler ensemble et nous n'avons pas de désaccord sur le fond.
Désormais, elle cherche à faire voter une proposition de loi qui vise à normaliser le quotidien des près de 20 000 artistes qui exercent quotidiennement leur métier dans l'ombre.
Le point central de la loi s'appelle Tattoo-up, le tatouage comme travail. Elle offrira la liberté de tatouer aux artistes et elle veillera aussi à la santé des Sud-Coréens. Si le texte passe, alors il y aura des salons qui seront enregistrés pour effectuer des tatouages et des artistes habilités pour le faire. Cette loi permettra aussi de garantir que les studios respecteront les mêmes critères sanitaires que d'autres commerces.
Des garanties loin d'être suffisantes pour certains. L'association médicale de Corée est opposée à l'idée de voir la législation évoluer. Hwang Chi-wan, dermatologue, est membre du syndicat qui estime représenter les deux tiers des médecins du pays.
D'abord, c'est certain que si ce n'est pas un médecin qui effectue le tatouage, les conditions d'hygiène sont insuffisantes. Il y a des risques d'infection et de problèmes médicaux. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un produit chimique qui est injecté, pas un produit pharmaceutique. Et ça peut créer des rejets ou même des cancers. C'est pour ça qu'on ne doit pas considérer le tatouage comme une mode vestimentaire ou du maquillage. Et puis, une fois que c'est injecté, c'est très difficile de le retirer.
L'association médicale de Corée offre à ceux qui le souhaitent une thérapie au laser gratuite pour retirer leur tatouage, mais surtout ils estiment qu'il faut privilégier d'autres méthodes.
Vous savez, la députée Liu Chong a fait une performance. Et ce n'était pas des tatouages qu'elle avait, mais des stickers. Ils se retirent en un ou deux mois du fait du cycle naturel de la peau. C'est ce que nous recommandons, des stickers.
Difficile d'imaginer cette solution jugée convenable par les milliers d'artistes qui espèrent depuis de nombreuses années voir leur travail enfin devenir légal. Le texte sera soumis au vote avant l'élection présidentielle qui aura lieu en mars prochain.
Les stickers, c'est pas pareil, hein. C'est comme dans les chewing-gums, c'est vraiment pas pareil. Allez, Nicolas Roca pour le reportage, et peut-être les tatouages aussi, tiens, on lui demandera. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars, et c'est Adrien Toffolet. Adrien, c'est au Soudan que vous nous emmenez d'abord, où le mot « révolution » est encore sur toutes les lèvres, sauf celle du pouvoir qui répond par la force.
Des grenades lacrymogènes qui explosent, des tirs de fusils automatiques, 125 blessés, un mort par balle, selon un comité de médecins soudanais. Ce que vous entendez, c'est la réaction du pouvoir soudanais face à la rue hier. Des dizaines de milliers de personnes réunies avec banderoles et chants de liberté, tentative de sit-in en fin de journée à Khartoum, avortée par la répression. Une manifestation géante ce 19 décembre en forme de clin d'œil pour commémorer le troisième anniversaire de la révolution qui a conduit à la chute d'Omar el-Béchir et de la dictature militaire. Un véritable élan démocratique avait soufflé à l'époque sur le pays, amenant à une période de transition fragile, trop fragile, jusqu'au coup d'État cette année, le 25 octobre, prise du pouvoir à nouveau par l'armée, confisquée par le nouvel homme fort du pays, le général Bourhan. Sauf que le peuple ne compte pas se laisser faire. La révolution, hier, semble avoir trouvé un second souffle. Nous ne voulons pas d'un régime militaire, explique cette manifestante au milieu de la foule. Nous demandons un régime civil, car c'est tout ce que le peuple soudanais a toujours voulu. Un régime civil sans Abdallah Hamdok, le premier ministre du gouvernement de transition, arrêté au moment du putsch, mais qui a fait un retour controversé, remis en place par le pouvoir militaire le mois dernier comme gage d'une reprise de la transition démocratique. Mais les prochaines élections ne sont pas prévues avant juillet 2023. Nous n'avons pas confiance et nous n'hésiterons pas à le crier encore. Voilà le message passé hier par la rue. Le prochain rendez-vous est déjà donné, samedi prochain, 25 décembre.
Quand la Chine perd sa doyenne, c'est aussi l'État chinois qui perd au passage un bel outil de communication.
Elle s'appelait Almian Seiti et elle était ce qu'on appelle une super centenaire, célébrée dans tout le pays comme la chinoise la plus âgée. On vient d'apprendre sa disparition à l'âge de 135 ans. Et à cet âge, figurez-vous qu'elle s'adonnait encore à sa passion, le chant. C'est elle qu'on entend pousser la chansonnette en habit traditionnel, une couronne dorée sur la tête. Membres de sa famille, journalistes et représentants du pouvoir sont tous réunis autour d'elle pour célébrer donc son 135e anniversaire il y a quelques mois. Et vous avez tiqué, Fabienne, effectivement, c'est étonnamment âgé, 135 ans, vous me direz. Et effectivement, ça n'a rien d'officiel. Ah. Le record n'est pas homologué par le Guinness Book. Il est revendiqué par les autorités chinoises qui brandissent la carte d'identité de la centenaire et peu importe la reconnaissance internationale au final. Carte qui date de 2009, sur laquelle on peut lire « Née le 25 juin 1886 dans le Xinjiang, la province de la minorité ouïghour, Almian Seiti était ouïghour. » Et on est donc bien loin des images de centres de détention où 1 à 2 millions de ouïghours vivent détenus, rééduqués par le pouvoir. Almian était une fierté qui a connu la Chine depuis la fin de la dynastie Qing. Qui peut en dire autant, une Chinoise à la vie longue et heureuse qui s'inscrivait à merveille dans le récit national promu par Xi Jinping.
Allez, on termine à New York, dans le royaume des rats.
Oui, la légende urbaine dit que dans la Grande Pomme, il y a 5 fois plus de rats que d'humains, sachant qu'il y a 8,5 millions de New-Yorkais, je vous laisse faire le calcul. En réalité, il y en aurait environ 2 millions de rats, ce qui constitue tout de même un vrai fléau.
Je suis un rat. Autrement dit, la vie est dure.
Et oui, New York n'est pas Paris, vous avez reconnu Ratatouille, la vie n'est pas un film de Disney. Un nouveau piège vient de faire son apparition là-bas, créé par l'entreprise Raptrap Distribution. Les rats sont attirés dans une grande boîte dans laquelle ils trouvent des biscuits Oreo. Ceux au beurre de cacahuète sont les plus efficaces, selon l'un des dirigeants de l'entreprise.
Vous êtes content chez Oreo.
Distribution, à volonté, on les laisse prendre leurs aises dans la boîte et au bout d'une semaine, une trappe s'ouvre dès qu'un rat pointe son museau. Il tombe dans un liquide bleu qui produit des vapeurs d'alcool, c'est redoutable, c'est un peu le diabète et la cirrhose express. Le futur maire de New York, Eric Adams, se dit déjà séduit au grand désespoir des associations de défense des animaux qui déplorent qu'on tente, ouvrez les guillemets, de tuer des animaux qui veulent simplement vivre leur vie comme n'importe quel New Yorkais.
Mais oui, allez à Broadway, mince, acheter des bretzels avec leurs petites pattes. Allez, merci beaucoup Adrien, bien sûr, à demain. Tiens, New York, on y va tout de suite, mais on passe d'abord par l'Australie, c'est deux stations seulement. Gabriella Silmi, Sweet About Me sur France Inter. Gabriella Silmi et Sweet About Me, c'est sur France Inter.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique de Joe Biden dans Un jour dans le monde. Un Joe Biden qui aimerait bien, tiens, qu'on soit sweet avec lui. Lui aussi, c'est pas trop le cas pour tout dire. Le Noël du patron de la Maison Blanche est bien gâché. La faute, Loïc Laurie, un sénateur, c'est toujours le même, démocrate pourtant, Joe Manchin, qui dit non au grand plan social et environnemental du président américain.
Oui, tout à fait. Un plan baptisé, Fabienne, Build Back Better, reconstruire en mieux, ce devait être l'un des très gros morceaux du mandat de Joe Biden. 1750 milliards de dollars tout de même pour des dépenses sociales et environnementales inédites. Alors une condition toutefois pour faire voter un tel texte, avoir l'appui de l'intégralité des 50 sénateurs démocrates à cause d'une majorité on ne peut plus étriquée. Et cette condition, eh bien, elle n'est pas remplie malgré des mois et des mois de négociations. Un seul homme grippe la machine, Joe Manchin donc, sénateur de Virginie-Occidentale, démocrate mais très centriste. Il assure que ce plan Build Back Better coûte trop cher et s'il restait jusque-là plus ou moins ouvert aux discussions, il a peut-être définitivement enterré le texte ce week-end sur Fox News.
C'est un texte colossal, j'ai eu mes réserves depuis le début, j'ai travaillé consciencieusement, mais si je ne peux pas rentrer chez moi et expliquer ce texte aux habitants de mon État, je ne peux pas le soutenir. Et je ne peux pas voter pour faire passer cette loi, je ne peux pas, j'ai essayé tout ce qui était humainement possible, mais c'est sans issue.
Et ce sont des mots, Loïc, qui sont un énorme doigt d'honneur adressé à Joe Biden.
Oui, il y a le timing désastreux à 5 jours de Noël. Il y a aussi le choix de Fox News, cette chaîne ultra-conservatrice, pour faire cette annonce surprise. Les réactions, bien sûr, ont immédiatement fusé. Un communiqué glacial est sans doute frustré de la Maison-Blanche en particulier, qui parle d'un revirement inexplicable et soudain et d'une violation des engagements de Manchin envers le président américain, président qui jusque-là est resté silencieux. Mais c'est sans doute sur l'aile gauche du Parti démocrate que les prises de parole sont les plus vives, les plus acerbes. Celle notamment d'un collègue sénateur de Manchin, Bernie Sanders.
J'espère que nous voterons, malgré tout. Laissons M. Manchin expliquer aux West Virginiens pourquoi il n'a pas les tripes de s'opposer au lobby. S'il n'a pas le courage de faire ce qu'il faut pour les travailleurs de Virginie et d'Amérique, qu'il vote non à la face du monde.
Et il faut dire que la gauche du parti fait figure de dindon de la farce dans cette histoire. Pendant longtemps, elle avait bénéficié d'un moyen de pression en conditionnant le vote d'un autre très gros texte dédié aux infrastructures à l'adoption de cette loi Build Back Better. Sauf qu'à la demande de la Maison-Blanche, cette aile gauche a finalement cédé. La loi infrastructure a été adoptée, mais pas ce plan environnemental et social. Et Joe Manchin n'a désormais plus aucun intérêt à le soutenir. Tout cela, en tout cas, interroge sur le fonctionnement de la démocratie américaine, puisqu'un seul homme, Fabienne, représentant à peine 1 800 000 Américains, peut bloquer le projet le plus emblématique d'une administration aux grandes dames de Joe Biden.
Séquence donc pénible pour Joe Biden qui a très fort à faire en plus avec le Covid et l'arrivée, Loïc, du variant Omicron comme tout le monde.
Oui, bien sûr, le président d'ailleurs doit s'exprimer demain sur cette question du nouveau variant. Les cas de Covid explosent ici aux États-Unis, plus 20% sur 2 semaines environ. Les décès liés à la maladie aussi, environ 1 300 morts chaque jour, et cela avant même qu'Omicron ne s'installe vraiment de ce côté-ci de l'Atlantique. L'épidémiologiste de la Maison-Blanche, le très connu Anthony Fauci, évoque la situation presque quotidiennement en ce moment.
Une chose est claire à propos d'Omicron, et pas juste dans notre pays, mais en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et ailleurs. Il a une capacité extraordinaire de se transmettre efficacement d'une personne à l'autre. Il semble que ce variant submerge tous les autres, y compris le Delta.
Et c'est un désastre pour Joe Biden à l'approche de Noël. C'était sa toute première promesse, mettre fin à l'épidémie de Covid-19 dans son pays. Une petite, toute petite note d'optimisme. Malgré tout, le président pourra compter sur Anthony Fauci, le fidèle. Il fête ses 81 ans le 24 décembre, veille de Noël. Mais ne comptez pas sur lui, disait-il hier, pour prendre sa retraite au milieu de la pandémie.
Allez, merci beaucoup Loïc Loury. Allez, à la semaine prochaine dans Un jour dans le monde. Jean-Marc Four nous attend.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc, au Royaume-Uni, les soucis continuent de s'accumuler pour Boris Johnson. Ce week-end, il a perdu son ministre du Brexit. Et dans la foulée, la presse britannique a publié ce matin l'image d'une garden party au 10 Downing Street, peu respectueuse des règles anti-Covid. Bref, ça sent le roussi pour le Premier ministre britannique. Mais pour vous, il ne faut pas l'enterrer trop vite et c'est votre monde d'après.
Comme disait Jacques Chirac, hein, les emmerdements, ça vole en escadrille. Et donc, le dernier en date de ces emmerdements, c'est cette photo, vous le disiez, publiée par le très sérieux Guardian. On y voit Boris Johnson Johnson et une quinzaine de personnes dans les jardins de la résidence du Premier ministre, en train de déguster verres de vin et morceaux de fromage sans aucune distanciation sociale. Problème, c'était en mai dernier et tout rassemblement de plus de 4 personnes était alors interdit dans le Royaume. Le 10 Downing Street répond que c'était une réunion de travail. On a un peu de mal à y croire, il n'y a pas le moindre stylo, dossier ou ordinateur à l'horizon. Et cet épisode complète la longue liste de scandales qui montre combien le Premier ministre bafoue les règles qu'il impose à ses propres compatriotes. C'est un bis repetita de sa fête de Noël de l'an dernier. Et c'est la conclusion d'une série noire depuis une semaine. Samedi dernier, démission de David Frost, l'homme du Brexit, avec pertes et fracas. Jeudi dernier, claque électorale dans un scrutin certes partiel, mais dans une circonscription acquise de longue date à son parti Les Conservateurs. Mardi dernier, rébellion de 98 députés de son camp au Parlement contre de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la pandémie. Vous ajoutez évidemment la situation sanitaire inquiétante avec la propagation là aussi du variant Omicron. Et ce discours, quand même, il y a un mois où Bojo a complètement perdu le fil de ses propos. Vous comprenez alors pourquoi son parti se demande s'il n'est pas temps de renvoyer Boris Johnson à la maison.
Alors Jean-Marc, quand même, comment on en est arrivé là? C'est juste la conséquence des gaffes en série du Premier ministre?
Bon, c'est sûr que rayon gaffe, il en connaît en rayon. On est même tenté de dire que les bouffonneries, c'est sa signature. Sauf que c'est en train de lasser quand même les électeurs britanniques. Pour la première fois, l'opposition travailliste devance de 5 points la majorité conservatrice dans les sondages. Et c'est surtout en train de lasser son parti qui mesure combien Bojo est aussi incontrôlable que sa coupe de cheveux est ébouriffée. Mais c'est pas seulement une histoire de gaffe. L'explication principale, je pense, c'est que Boris Johnson a déjà fait le boulot pour lequel il a été élu, j'ai nommé le Brexit. C'est ce que lui demandaient les électeurs britanniques, mettre fin à la cacophonie de sa prédécesseur Theresa May. Sauf que du coup, question maintenant, à quoi sert désormais Bojo? Et la question est d'autant plus pertinente que le positionnement idéologique de Boris Johnson n'est pas clair. Contrairement, je sais pas moi, au thatcherisme, au blairisme, le johnsonisme est indéfinissable. C'est une navigation à vue, tantôt à droite, tantôt à gauche, avec des mesures, hausse des impôts, intervention de l'État, retour aux restrictions sanitaires qui déplaisent souverainement à son parti. Parce que, soit dit en passant, il ne faut pas s'y tromper. Si les conservateurs commencent à se rebeller contre Bojo, c'est surtout parce qu'il n'est pas assez à droite, pas assez libéral, pas assez anti-européen pour eux.
Alors, pourquoi, selon vous, le Premier ministre britannique peut malgré tout s'en sortir?
Je ne sais pas s'il peut s'en sortir, mais il peut tenir encore un certain temps. Ça, c'est possible. D'abord, il a de la ressource. C'est un joueur de poker qui sait faire des paris audacieux. C'est précisément ce qui plaît aux Britanniques. Et faute d'être un bon Premier ministre, il reste un excellent candidat capable de faire gagner des élections. Ensuite, le Parti conservateur ne possède pas encore de leader alternatif totalement crédible, même si on voit monter des noms. La ministre des Affaires étrangères Liz Truss, Richard Place en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h, ou le ministre des Finances Rishi Sunak. Et puis le contexte immédiat pousse à serrer les rangs, éviter la désunion face à la nouvelle menace pandémique. Enfin et surtout, Bojo est loin d'être le premier locataire de Downing Street à traverser des zones de turbulence. Macmillan avec le scandale Profumo, Thatcher avec la crise des mineurs, Blair avec la guerre en Irak, etc. Et la presse britannique n'aime rien tant que de compter les rebelles dans les rangs du parti au pouvoir en agitant ce spectre de ce que l'on appelle un leadership contest, la mise aux voix au sein du parti majoritaire de la légitimité du chef. Dans un régime parlementaire, ça conduit potentiellement au changement de Premier ministre. Seulement voilà, cette menace est souvent brandie, rarement mise en œuvre. Bref, Bojo touché, oui, mais pas coulé.
Allez, Jean-Marc Four et le monde de la presse, et tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain pour nous, ça continue. Dans un instant, il y a le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous, ne changez rien.